enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Une génération forte. Et ce sera ce matin la deuxième partie du message. Alors, je voudrais d'abord honorer quelqu'un. Parce qu'après la première partie, une sœur m'a dit, le message m'a tellement touché et m'a tellement bouleversé lorsque tu as parlé des aigles, lorsque tu as dit que Dieu voulait que nos enfants soient comme des aigles et non pas que nous en fassions des dindons dans nos nids, que je t'ai brodé un t-shirt avec deux aigles. Meine liebe Schwester, danke schön. Ils sont brodés main. Vous pouvez faire un gros plan dessus. Ils sont faits d'une manière magnifique. C'est magnifique. Et je me réjouis de ce que la sœur m'ait brodé les aigles et non pas le dindon. Von ganzem Herzen bedanke ich mich bei dir. Es hat mich wirklich getroffen. Ja, getroffen. Ça m'a touché, en plein dans le mille. Bien, avant de commencer, je voudrais simplement lire un petit texte que j'ai trouvé dans sa parole pour aujourd'hui. Alors, c'est daté du mardi 23 août. Donc c'est à venir. Moi j'ai toujours du mal à suivre page après page. Je ne suis pas très discipliné pour ça. Alors j'aime bien regarder un peu à droite, à gauche. Et puis j'ai voulu introduire le message avec simplement ce qui est dit ici. Une famille décida de consigner par écrit l'histoire de ses ancêtres et engagea pour cette tâche un biographe professionnel. Mais comment parler de l'oncle Georges, la brebis galeuse de la famille qui, condamnée pour meurtre, était mort sur la chaise électrique. Aucun problème, déclara le biographe. J'écrirai que votre oncle Georges était titulaire d'une chaire de sciences appliquées, spécialité électronique, dans l'une des plus prestigieuses institutions gouvernementales, et qu'il était particulièrement attaché à cette position. Sa mort soudaine fut donc pour tous un choc terrible. Vous n'avez aucun moyen d'améliorer l'image du passé de votre famille ou l'éducation que vous avez reçue. Par contre, vous pouvez modifier votre avenir et celui de votre famille. Vous ne changerez pas le passé, mais vous pouvez changer le présent. Vous ne changerez pas votre éducation, mais vous pouvez changer de manière d'éduquer vos enfants. Nous avons vu dans notre première partie trois choses. La première, Dieu veut une génération forte. Et je m'adresse à tous les jeunes gens dans ce lieu. Ce que Dieu veut, c'est que votre génération soit une génération d'hommes forts et de femmes fortes. Nous avons vu ensemble ce que Dieu voulait. Nous avons fait tout d'abord un constat, puis nous avons examiné pourquoi aujourd'hui nous en étions là où nous en sommes en regardant la génération présente. Et nous avons examiné ensemble les conséquences. Pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, il vous est possible d'avoir la cassette ou le CD. Aujourd'hui, je voudrais aborder la deuxième partie, c'est ce que Dieu nous propose. Et pour cela, j'aimerais relire encore avec vous les textes que nous avions la dernière fois, le psaume 127, versets 3 à 5. Psaume 127, versets 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Mes frères, mes sœurs, vos fils et vos filles sont une bénédiction de l'Éternel. Cependant, il nous dit dans Deutéronome 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et il continue au chapitre 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la... » que tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voilà la condition. Ce texte s'adresse à Israël, mais ce texte s'adresse aussi à tous les enfants de Dieu. Nous avons été greffés sur l'olivier franc et nous faisons partie maintenant de ce peuple qui un jour, eh bien, célébrera Yeshua dans l'éternité. Nos fils et nos filles sont une bénédiction dans la mesure où nous les éduquons selon la parole de Dieu. Si tu tiens compte des commandements, alors ils seront en haut et jamais en bas, ils seront la tête et non pas la queue. Ça, c'est une promesse pour toi et pour moi, mon frère et ma sœur. Autant les enfants peuvent être une bénédiction, autant je suis convaincu que si nous ne leur donnons pas l'indication du chemin qu'ils doivent suivre, ils peuvent devenir pour nous comme une carie dans les os ou comme une épine dans la chair. Et certains parents, eh bien, souffrent aujourd'hui simplement parce qu'ils ont omis la parole de Dieu. Il est vrai également que certains parents ont tout fait ce qu'ils pensaient être juste et ont quand même eu un fils, une fille qui n'a pas forcément suivi la voie. Je rappelle que nos enfants gardent toujours la liberté un jour de choisir ce qu'ils font. Cependant, Dieu, lui, nous propose la tête et non pas la queue. Regarde ton voisin et dis-lui, ton fils sera la tête et non pas la queue. Ta fille sera la tête et non pas à la queue. Et pour ceux qui viennent de se marier, c'est prophétique. Pour ceux qui sont célibataires, c'est prophétique. Et pour les grands-parents, eh bien, c'est tout ce que vous avez encore à prier. Élever des enfants n'a jamais été facile. Il n'y a pas d'école où on apprend à élever les enfants. Ça, je l'ai appris. Dès le commencement, vous vous rendez compte, en lisant la Bible, qu'élever des enfants, c'est une aventure. Adam eut des problèmes avec son fils Caïn. Abraham eut des problèmes avec son fils Ismaël. Et puis, Isaac aura des problèmes avec son fils Ésaü, qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Je peux continuer. Élie et Samuel eurent des problèmes avec leurs propres enfants. Quelles furent les difficultés que David rencontra avec Absalom? Et puis, souvenez-vous que Jésus nous partage une parabole où il nous parle d'un fils prodigue. Eh bien, imaginez être le père de ce fils-là. Ça n'a pas été facile. La Bible ne nous dit pas que ce père ait fait des fautes particulières. Il a simplement un fils qui, lui, est rebelle. Élever des enfants n'est donc pas facile. Et je me dis, si ces hommes de Dieu-là ont eu des difficultés, des problèmes, alors ce n'est pas étrange que moi je puisse aussi en avoir. Cependant, il me semble qu'aujourd'hui de nombreux parents, eh bien, sont perdus. Il y a aujourd'hui tant de conseils qui sont distillés dans la manière d'éduquer nos enfants. les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres, etc. Chacun y va de son bon conseil au stade où les parents ne savent plus du tout où ils en sont. Dieu, lui, nous ramène à ceux qui sont les seuls éducateurs attitrés de leurs enfants, et j'appelle les parents. Vous êtes, frères et sœurs, les seuls éducateurs attitrés de vos enfants, ni l'État, ni l'école, ni même l'Église, et encore moins la télévision, ne doivent faire l'éducation de vos enfants. C'est vous. Dieu vous a fait confiance, et c'est pour cela qu'il vous a confié des enfants, afin que vous les éduquiez dans la voie qu'ils doivent suivre. Bien-aimés, il nous encourage. Regardez ce qu'il nous dit par une parole, moi qui me fais du bien, dans Proverbes 22, verset 6. « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. Et moi, je peux confirmer sa parole. Et je peux confirmer cette parole, vous savez comment ? En regardant Papa Jean. Il conserve les bonnes habitudes que son père lui a données, alors même que lui maintenant est âgé. Et lui déjà se réjouit des bonnes habitudes qu'il a données à ses enfants, qui, dans leur vieillesse, s'en souviennent et le respectent. Je blanchis, moi également. Mon premier point ce matin, éduquer l'enfant. Alors, je voudrais faire en préambule une remarque. Chaque parent doit veiller à éduquer l'enfant selon l'âge que l'enfant a, évidemment. Et puis, l'éducation variera entre la fille et le garçon. Je fais là juste une petite remarque. Je me suis rendu compte que les mamans ont toujours tendance à exiger beaucoup plus des filles que des garçons. Et je me suis rendu compte que les pères ont toujours tendance à exiger plus de leurs garçons que de leurs filles. C'est comme si on avait une petite faiblesse. Parfois, j'avais mes trois gaillards assis sur le canapé mollement installé. Mes quatre, oui. Non, j'ai pas dit trois. J'ai dit trois. J'avais mes quatre gamins mollement installés pendant que les filles devaient bosser. Et je disais à ma femme, oui, haha. Je disais à ma femme, mais pourquoi fais-tu toujours bosser les filles? Pourquoi c'est elles qui font l'aspirateur, etc. Et elle me répond, eh bien pour moi c'est plus simple parce que quand elles le font, c'est toujours bien fait. Quand les deux, quand les quatre autres le font, c'est toujours le foutoir. Alors évidemment, on choisit le chemin le plus court et on choisit le chemin de la facilité. Il est vrai que quand moi, je bricole et je prends un... Ça m'arrive. Voilà, samedi dernier, j'ai changé un poteau. Oui. 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 Oui, je sens que ces applaudissements, c'est une forme de moquerie, mais ça fait rien. Nous étions à trois à changer un poteau, moi et mes deux fils. Et nous avons dû appeler au secours mon frère, parce qu'on s'en sortait plus. Mais je me suis rendu compte que l'on pouvait être très très exigeant à l'égard de ces garçons. Et je dois dire que Josué a un peu subi toute ma ferveur samedi dernier. Maintenant, qu'est-ce que l'éducation ? Dans le dictionnaire, il nous est dit « façon d'assurer la formation et le développement d'un être humain, les moyens pour y parvenir ». Alors, il est important ce matin de remarquer qu'il y a une différence entre instruction et éducation. Vous pouvez enseigner à vos enfants le chemin à suivre sans pour autant les éduquer. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire un tas de belles choses, Je vais vous dire ce qui est important. Il faut des leçons, mais également des exercices sans quoi tout est rapidement oublié. La leçon à elle seule ne suffit. Il faut des exercices. C'était comme ça dans les cours de maths. J'ai un prof de maths en face de moi. On nous faisait la leçon et ensuite les exercices. Vous avez beau eh bien faire des leçons à vos enfants. À un moment donné, on passe à la partie pratique. Et l'éducation, c'est tout cela. En quoi consiste-t-elle, cette éducation? Eh bien, voyez-vous, on est actuellement dans une certaine mouvance, une espèce de pédagogie qui nous dit que l'enfant doit tracer lui-même sa voie. Bah, regardez ce qui se passe actuellement et puis vous voyez où la voie mène. Il est évident que l'enfant ne peut pas tracer lui-même sa voie. Il a besoin de quelqu'un qui va lui aider. Il a besoin de quelqu'un qui va lui mettre des limites, qui va établir des règles. Il en a besoin et souvent il le demande et quand il ne les a pas, il va chercher les limites. Bien aimé, prenez un terrain de football, supprimez les limites et il n'y a plus de match. Hello? Supprimez les limites, il n'y a plus de match. Prenez un terrain de basket, supprimez les limites, il n'y a plus de match. Allez, je vais prendre quelque chose que tout le monde connaît parce que beaucoup n'ont pas fait de basket. Supprimez les limites que fixe le code de la route et demain la moitié d'entre nous on est mort. S'il n'y a plus de limites, s'il n'y a plus de règles, la vie devient impossible. Nous sommes et vous êtes en danger. Alors il nous faut des limites. Des limites dans le temps par exemple. À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure mange-t-on? Ça oblige les parents aussi à se discipliner. À quelle heure dois-je rentrer? Je vais chez mon copain, ma copine. À quelle heure dois-je rentrer? Moi je me souviens quand je rentrais en retard, j'avais une technique imparable. Je reculais la montre. Je rentrais et je disais, oh purée, c'est juste l'heure, hein? Et la mer, elle devenait verte. Ou alors, l'autre technique d'amadouement, c'était cueillir des fleurs. Mais vous savez, j'étais pas le seul, hein? On a hébergé chez nous un grand-père de 88 ans à 93 ans. C'était Maurice. De temps en temps, Maurice allait faire son petit tour et puis il se rafraîchissait également. Il mettait de l'eau dans le radiateur. C'était pas toujours de l'eau, hein. Et quand il arrivait en retard, il était unique parce qu'il marchait avec une petite canne. Il arrivait, et ma mère déjà à table. Ah, si vous connaissez la sœur Suzanne, à table déjà, il y avait de l'ambiance. Quand il viendra, tu vas voir ce que je vais dire. Mais tu vas. Puis il arrivait, puis il disait. Over exact in the seat, hein? Exact in the seat. Il n'était même pas encore dans la pièce, déjà dans le couloir. Over exact, hein? Il est vrai que ce qu'on apprend dans la jeunesse, on le maintient dans la vieillesse. Des limites dans le temps. Alors évidemment, au fur et à mesure que vos enfants grandissent, vous allez élargir les limites, d'accord? C'est le problème qu'ont beaucoup de parents. Moi, je vais vous dire pourquoi vous avez des ados parfois révoltés. Parce que vous continuez à les traiter comme des petits. Si vous dites à votre gamin de 16 ans, c'est 8 heures, tu dois aller te coucher, ça va pas marcher. Et voyez-vous, quand il y a des plus petits, vous êtes confrontés à un problème, parce que les petits, quand vous leur dites, il est 8 heures, va te coucher, ouais, mais pourquoi nous, on doit se coucher, et Josué, lui, il n'a pas besoin de se coucher. Alors je leur dis, vous allez au lit, il est 8 heures, et Josué ira aussi à 8 heures et quart. Vous adaptez à l'âge, votre régime. Vous ne traitez pas un ado comme vous traitez un petit. Et trop souvent, cette erreur, eh bien, est faite. Trop souvent, on les infantilise en les traitant de la même manière. Des limites également dans l'espace. Il faut leur mettre des limites. Non, tu restes sur le trottoir, à côté de moi quand on marche. Non, tu ne grimpes pas sur le toit de la maison. Non, tu joues pas, eh bien, du trampoline sur le toit de la voiture. Des limites dans l'espace. Non, tu cours pas sur les chaises de l'église. Moi, j'ai déjà vu des gamins, là, courir sur les chaises et les parents qui disaient, qu'il est mignon. Moi, intérieurement, c'est comme les loups, ça veut dire « Ouhou ! Seigneur, retiens-moi ! Ouhou ! » Qu'il est mignon, mais non, il n'est pas mignon, il est en train de faire n'importe quoi, et un jour, tu ne le tiendras plus. Des limites ! Quand nous avions 10 ans, enfin, j'avais 10 ans, à chaque exemple que je donne, je dis que j'avais 10 ans, hein. Écoutez, c'était dans ces eaux-là. Mon père nous emmène visiter une sœur qui a une maison à flanc de colline. Donc, on était petits, alors lui, il a eu un entretien avec la sœur, et puis l'entretien durait un peu. Et nous, on jouait dehors. Mais comme la maison était à flanc de colline, il y avait derrière la maison, eh bien, un champ, voyez. Mais la maison étant à flanc de colline, le toit touchait le champ. Donc, nous, on a confondu le champ et le toit. Et puis, on s'est vraiment bien amusé, hein. C'était super. Avec Daniel, on a passé une super après-midi, on a trouvé un tas de trucs à bricoler. Et puis, on est rentré à la maison, quand on est arrivé chez nous, voilà, puisque la sœur habitait à Gaïsous, je sais pas si vous voyez où c'est, à Vallée de Tanne. La sœur appelle le frère Jean, elle lui dit, Jean? Il dit oui. Elle dit, tes garçons, ils ont fait quoi? Il dit, mais ils ont joué. Elle dit, oui, ils ont joué. Il dit, pourquoi, Cécile? Il n'y a plus de cheminée sur le toit. Nous avions découvert que la cheminée était assez vieille, et puis ça faisait des Legos, ces briques, hein. Donc on a joué avec les Legos, et puis on a remonté les Legos dans le champ derrière, et la brave Cécile, il n'y avait plus de cheminée. Donc mon père nous a enseigné la différence entre un toit et un champ. Ça passe parfois par une expérience quelque peu douloureuse, une imposition des mains plus basse que d'habitude, mais enfin ça vous remet les choses en ordre. Lorsque vous lui mettez des limites, il apprendra que la liberté de l'un se termine là où commence celle de l'autre. Sinon, il ne l'apprendra pas. Des limites par rapport au bien d'autrui. Même quand c'est à l'intérieur de la famille, les enfants. Non, ça appartient à ta sœur, tu ne le prends pas à moins de lui demander. Non, ça c'est à moi, tu ne le prends pas à moins de me demander. Je suis actuellement en guerre contre mes fils. Régulièrement, j'arrive. J'ai plus de chaussettes, j'ai plus de slip. J'ai... Ah ben, vous riez, mais quand vous êtes pieds nus, que vous devez partir et qu'il n'y a plus de chaussettes, parce que c'est quelqu'un d'autre qui se promène dans vos chaussettes, je vous assure que vous leur apprenez, il y a des limites. Ça, c'est à moi. Voyez-vous, le réflexe naturel des enfants, quel est le réflexe naturel des enfants? Le réflexe naturel des enfants, c'est « ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est à moi ». C'est pile et face, pile je gagne, face tu perds. Il gagne à chaque coup. Des limites. Moi, je vous l'avais déjà dit un jour, mais ça va tellement. Lui apprendre qu'on ne prend pas dans le magasin. Vous savez, les enfants, parfois, ils croient qu'ils peuvent prendre, ils passent la caisse. J'ai déjà vu des parents être fiers du gamin sur le parking. « Oh purée, t'as réussi à passer ça, oh purée !» C'est vrai, bientôt, préparez-vous à lui emmener des bananes en cabane. Hein, parce qu'il croira que toute sa vie, c'est comme ça. Je me souviens, un jour, j'avais... Disons que j'avais emprunté une tortue dans un jardin. Non, j'ai passé à côté d'un jardin, il y a une belle tortue. Et elle avait l'air seule, hormis qu'elle était de l'autre côté du mur. Mais sinon, il n'y avait personne. Et puis j'ai passé, j'ai vu la tortue. Elle est chouette quand même, la tortue. Et puis j'ai repassé. Et puis finalement, j'ai passé au-dessus du mur. Et puis je suis reparti avec la tortue. Je l'ai ramenée chez moi, je lui ai donné de la salade. Elle était sympa, la tortue et tout, jusqu'à ce que mon père ait appris que finalement, ben, la tortue était une tortue empruntée. On va me dire comme ça, hein. Alors il me dit, vous allez retourner, ramener la tortue. Bon, Il a des moyens pour nous convaincre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez mesurer la surface des mains. Vous verrez qu'il a vraiment des moyens pour vous convaincre. On retourne. Alors, prends ma tortue. Je retourne. Je sonne. Je rapporte la tortue. La dame ouvre. Oh! Oh! Oh, mon petit! Tu as retrouvé Émilie! Oh, merci! Viens, je te donne 10 francs! Oh! Mais c'est super! Il a donc fallu que nous apprenions que ce qui appartient aux autres ne nous appartenait pas forcément. Ça, ce sont des limites nécessaires. Si vous ne leur apprenez pas, des petits, à respecter la propriété des autres, à commencer par leurs frères et sœurs et leurs parents, un jour, ils feront plus de distinguo avec la propriété des autres à l'extérieur, et vous aurez des délinquants et vous aurez beaucoup de problèmes. Alors, vous allez me dire, mais frère, quelle procédure à suivre ? Bien, simplement, dans la famille, commencer à établir des règles claires. Qui fait quoi et quand ? Quand on est à table et on tousse, on met la main devant la... Vous savez, c'est aussi simple que ça. Vous avez l'impression que c'est rien, mais je vous assure que c'est aussi simple que ça. C'est pas agréable de partager le repas de l'autre quand il tousse, hein. Vous fixez donc des règles. On a fixé des règles. Qui fait la vaisselle tel jour, qui range dans le lave-vaisselle tel jour, etc., etc. Ensuite, eh bien, quand les règles ne sont pas respectées, vous décrivez les conséquences. Il y a toujours des conséquences. Regardez dans le sport. Moi, j'ai joué au foot. Quand on sortait avec le ballon de la limite, ça donnait ou une touche, ou un corner. Quand je fauchais un adversaire dans la surface de réparation, ça donnait un pénalty. Quand je bousculais, ça donnait un coup franc. Et si je le bousculais trop fort, ça donnait un carton rouge et je rentrais à la maison. Il y avait des règles et il y avait des sanctions qui les accompagnaient pour que j'apprenne quelque chose. Pour que le jeu puisse se dérouler, bien aimé, il faut. Quand l'obéissance n'est pas au rendez-vous, eh bien, appliquez la correction. Alors la correction, bien sûr, va s'adapter à l'âge de l'enfant. Moi, je me vois pas aujourd'hui prendre Jonathan sur le genou et il a bientôt 20 ans. Ce sera peut-être une privation ou autre chose, mais il faut appliquer. Cependant, sans colère, il n'y avait qu'une explication. Et c'est ça le plus difficile. J'ai donné le message à lire à mon fils l'autre jour. Quand il a lu ça, il s'est mis à rire. Il dit, t'as pas toujours réussi, hein? Alors c'est vrai que j'ai pas toujours réussi. Je dois dire qu'il réfléchit beaucoup. Et c'est lui, un jour, son frère descend de la chambre. Et puis, il fait... Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Josué? Oh, l'autre, là. Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Il dit, ben, il a sa tirelire dans la chambre. Je dis, ah bon? Et alors, que ça te fait? Il dit, j'ai regardé dedans. Ah! T'as outrepassé ta limite? Il dit, ouais. Mais alors, ah. Il était vraiment bousculé, hein? Il dit, alors, qu'est-ce que t'as vu? Il dit, il y a un billet dedans. Il dit, ah bon, il y a un billet? Ouais, et puis il y a quelque chose d'écrit. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben, il y a écrit, moi je ne suis pas là pour te voir, mais Dieu te voit. Ça, c'est un bon antivol. Alors évidemment, Jonathan, il m'expliquait que... Mais j'ai des souvenirs d'enfance où papa Jean me corrigeait. Là aussi... Une correction, c'est pas de la violence. Ne confondez pas violenter un enfant et simplement le corriger avec une correction adaptée à la faute qu'il a faite. Papa me prenait parfois. Et nous avions un pommier japonais dans le jardin. Vous savez, avec les branches toutes fines. Il allait couper une branche. Et puis après, il me prenait, il me disait, Samy, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais je dois le faire. Et moi, je me disais, si ça te fait autant mal au cœur que ça, laisse tomber. Hein? Moi, je voulais pas faire souffrir mon père. C'est uniquement par amour. Et là, mon ami, il nous en donnait... Ça faisait... Chut. Mais aujourd'hui, je lui dis... Merci. que ce temps soit passé. Vous savez, ce que vous n'êtes pas capable d'apprendre naturellement, vous allez l'apprendre par la sanction. Et j'aimerais vous dire que corriger l'enfant, c'est l'aimer. Écoutez ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il est vrai, verset 11, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Oh oui. Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Proverbe 13, qui refuse de frapper son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime n'hésite pas à le punir. Alors, c'est vrai que je suis entièrement à contre-courant de ce que l'on nous dit aujourd'hui. Cependant, je me suis quand même rendu compte que de plus en plus, la société faisait marche arrière sur bien des points. Hier, aux infos, je voyais une maison où l'on mettait des ados qui n'avaient pas eu d'éducation pour leur remettre des limites et des règles. Alors, il est dommage d'en arriver aussi loin. Et je me dis, si nous suivons ce que la parole de Dieu dit, nous garderons nos enfants et nous les aimons au travers de cela. Regardez les fils d'Élie. Quel est le reproche que Dieu fait? Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Corriger, c'est aimer. Soyez juste quand vous corrigez. Expliquez pourquoi vous corrigez. N'irritez pas vos enfants en corrigeant. Vous avez des parents? Ce sont des distributeurs de baffes automatiques. Mais l'enfant ne sait même plus pourquoi il en reçoit. Ne vous étonnez pas qu'un jour il vous morde. Ne vous étonnez pas qu'un jour il se rebelle. Ne vous étonnez pas qu'un jour il se retourne contre vous. Parce que vous le verrez, la correction est un aspect de l'éducation, mais ce n'est, et béni soit Dieu, pas tout l'aspect. Deuxième point, nous les éduquons en leur mettant des limites, nous les éduquons également par l'amour. Cependant, aimer, ce n'est pas être faible. Aimer, ce n'est pas dire oui à tout. Aimer, ce n'est pas laisser nos sentiments, nos émotions prendre le dessus. Aimer, c'est être juste. Il n'y a pas de justice. Sans amour, il n'y a pas d'amour sans justice. Mais qui dit justice dit aussi qu'il y a des règles et qu'il y a des limites. Et si les limites sont traversées, il faut qu'il y ait des sanctions, parce que la sanction est le seul moyen de ramener dans les limites et de faire respecter les règles. Tite, chapitre 2, versets 3 et 4, et c'est donc mon deuxième grand point. De même, dit aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte, elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent de bons conseils, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Frères et sœurs, ça s'apprend. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Dans ce cadre-là, ce que les parents devraient apprendre à leurs enfants, ce sera mon point A du deuxième grand chapitre. Premièrement, je crois que c'est notre responsabilité de leur partager le bien le plus précieux, la parole de Dieu. Si vous ne leur partagez pas, qui leur partagera? L'école du dimanche? Oui. Mais c'est régulièrement qu'ils ont besoin de la parole. Écoutez ce qu'il est dit dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Lorsque vous enseignez la parole à vos enfants, elle rentre la parole. Vous le croyez? Je vous l'ai déjà souvent raconté, mais pour moi, c'est resté inoubliable. Ma petite fille Sarah, enfin maintenant, depuis que l'autre est venue là. Ma petite fille Sarah avait 5 ans et à l'école, elle a fait des petits gâteaux. Et puis, elle rentre à la maison, elle avait 5-6 petits gâteaux de l'école maternelle. Jonathan, prédateur des gâteaux, l'attendait donc férocement à la maison. Et puis immédiatement, donne-moi des gâteaux, donne-moi des gâteaux. Et puis Sarah dit, non, 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 ces gâteaux, c'est pour papa. Merci Sarah. Nous arrivons au repas. Je dis, on va prier. Et avant qu'on prie, Sarah dit, tu vois papa, c'est pas beau ce que fait Jonathan. Il me fait la tête alors que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, je dis, ça m'a touché. Et tout d'un coup, l'autre zigoto qui était à table, les poings comme ça, il les descend, il dit, oui mais, Jésus aussi a dit, donnez-vous les petits gâteaux les uns aux autres. Elle rentre la parole. Il la change parfois à leur goût, mais elle rentre. Un jour, il est chez ma chère sœur Annie qui est là ce matin. Annie, je te salue. Et puis, elle l'avait accueillie pour une après-midi, elle lui avait donné une pince à cornichons à jouer. Et alors elle lui dit, tu vois, tu fais le crocodile, mais surtout ne la tourne pas dans l'autre sens. Elle aime pas ça, la pince. Il dit, oui, oui, Annie, oui, oui. Et puis, il joue au crocodile avec sa pince à cornichons. Et tout d'un coup, plus de bruit. Annie passe dans la pièce à côté et voit la pince à cornichons en deux. Il avait bien sûr cherché la limite dans l'autre sens. Elle lui dit, mais Jonathan, qu'est-ce que t'as fait avec la pince à cornichons? Il la regarde et dit, encore un coup du diable. Il a bon dos le diable, hein? Bien-aimés, enseignez-leur la parole. Mais, et là j'aimerais dire quelque chose que j'aimerais que vous inscriviez, parents. La parole de Dieu est un pédagogue pour vous. Écoutez bien ce que je veux dire. Vous allez recevoir l'enseignement pour éduquer vos enfants par la parole, mais de grâce. Ne le reprenez pas constamment en disant « La Bible dit que, la Bible dit que t'as pas le droit, la Bible dit que, la Bible ceci, la Bible cela. » Un jour, il va vous jeter avec la Bible. La Bible est un pédagogue pour les parents. Maintenant, appliquez ce qu'elle dit sans pour autant lui dire chaque fois « Il est écrit, il est écrit, verset 1, verset 3, du chapitre 2, de tel livre. » Non, mettez en pratique la parole. Vous n'êtes pas appelé à moraliser vos enfants. Vous êtes appelé à les éduquer. Vous êtes appelé à leur donner des valeurs et ces valeurs, la parole de Dieu nous les donne. Me laissez-vous encore 10 minutes? Qui me laisse 10 minutes? Bon, pour ceux qui n'ont pas levé la main, je vote pour eux. C'est ça la démocratie, non? Bon. Bien. Apprenez-lui à obéir. Enfant, Éphésiens 6. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Comment honorer son père si ce n'est en lui obéissant? Comment honorer sa mère si ce n'est en lui obéissant? Si l'enfant apprend à obéir à la maison, il sera apte à recevoir des ordres plus tard sur son lieu de travail. Mais vous avez aujourd'hui un tas de gamins qui ne gardent jamais leur travail parce qu'ils ne supportent pas de recevoir des ordres, tout simplement parce qu'ils ont eu le sentiment que dans la vie, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est de sa faute à lui? Non, c'est le fait de ne pas lui avoir donné de limites. Troisièmement, dans ce deuxième chapitre, donnez-lui goût à l'effort et au travail. Pourquoi est-ce que tous les jeunes sont silencieux ce matin? Moi, j'attendais de votre part un « Alléluia !» Donnez-lui goût à l'effort et au travail. Regardez ce que Lamentation dit. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. C'est bon. C'est bon d'apprendre. Nous, on devait aller faire le bois avec mon père. On devait aller fendre le bois. Il fallait aller au jardin faire pour. Et elle m'énervait, cette mauvaise herbe, hein. Oh, c'était incroyable. Elle poussait plus vite que le reste. Puis t'en arrachais une, il y en avait trois qui poussaient à la place, comme pour me narguer. Mais on a appris. Il fallait que je fasse le fumier des lapins, il fallait ceci, il fallait cela, il fallait... Et puis à la maison, il fallait aussi aider, etc. Aujourd'hui, tu me donnes combien? Qu'est-ce que tu dis? Je vais pas. Qu'est-ce que tu me donnes combien? Ein Arach zum Links. Tu me donnes. Fais ça aujourd'hui. Tu me fais ça? Tu me donnes combien? Mais attends. Attends. Il n'est pas question de te donner maintenant quelque chose. Il est question simplement que c'est normal. Tu fais partie de la maison. Faites fendre du bois à votre fils. J'en ai un qui est spécialisé pour ça. Bientôt, il fend les bûches rien qu'en les regardant, tellement il les aime. Mais quand ils ont fendu le bois, vous savez ce qui se passe? Ils apprennent à apprécier le chauffage. Ils laissent plus les portes ouvertes n'importe comment. Ils laissent plus, quand le chauffage tourne à fond, les fenêtres ouvertes, parce qu'ils savent qu'il faut de la transpiration pour chauffer la maison. Donnez-leur du goût au travail. Frères et sœurs, c'est la plus belle des choses que vous pouvez leur laisser. Apprenez-lui également que tout ne lui est pas dû. Apprenez-lui le respect de la discipline. Discipline, le respect du travail des autres. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas les mamans qui ont le sentiment de ne pas être respectées dans leur travail? Est-ce qu'il y a des mamans comme ça? Qui ont le sentiment de ne pas être respectées dans... Mais alors la seule qui ne devait pas lever la main, elle lève la main. Mais tu me casses tout. Combien de fois vous nettoyez, les gamins rentrent sans regarder, passent par l'endroit où c'est encore mouillé, etc. Combien de fois vous faites le lit, ils s'assiedent dessus, ils le dérangent, ils repartent, etc. Eh bien, un moyen simple pour leur apprendre à respecter votre travail, faites-le leur faire. Faites-le leur faire. Avant qu'on ait rentré, j'étais parti un moment, avant qu'on soit rentré, nos garçons, alors ça c'était, je pense que là il y avait un réveil religieux dans la famille, parce que nos garçons ont pris l'initiative de nettoyer toute la maison de fond en comble. Mais je peux vous dire que quand on est rentré, Jonathan veillait à ce que personne ne dérange quoi que ce soit. Dès qu'un frère rentrait sans mettre des chaussures, « Tigodas, t'assieds pas sur le lit, le canapé laisse !» Et je me suis dit, tiens, quand ils le font eux-mêmes, ça a plus de valeur. Alors maman, au lieu de pleurnicher, en disant « Personne ne me respecte !» commence à dire à ton fils, à ta fille, « Viens m'aider, fais-le. » Et puis avec le temps, vous verrez qu'ils feront attention à votre travail. Apprenez-leur les limites. Donnez-lui des valeurs morales également, l'honnêteté, etc. Et j'aimerais juste aborder, nous pourrions continuer la liste, mais j'aimerais terminer en parlant de l'attitude des parents face aux enfants. Apprenez-leur aussi à être pudiques. Ça, je veux l'aborder. Je veux l'aborder quand même rapidement. Attendez, on ne sait plus aujourd'hui si la mode habille nos enfants ou les déshabille. Et franchement, pensez-vous que c'est avoir un respect de nos fils et de nos filles quand ils en font ce qu'ils en font? Moi, je crois que les jeunes gens peuvent être habillés modernes et tout ce que... Comme moi, ce matin. Avant de partir, Emma déjà dit, mais c'est moche. C'était l'encouragement que j'avais avant de venir. Je sais pas, je lui fais penser à son grand-père ou à quelqu'un. Non, vous pouvez être bien habillé, vous pouvez être classe, vous pouvez avoir du Nike et tout ce que vous voulez. Mais décent. Pas vulgaire. Pas vulgaire. Jeune fille, vous ne gagnez pas le respect de votre prochain quand vous êtes vulgaire. Jeune homme, tu ne gagnes pas le respect de ton prochain quand tu es vulgaire. Tu ne gagnes pas le respect. C'est pour ton bien que je te le dis. T'en fais ce que tu veux. T'en feras ce que tu veux. Mais c'est pour ton bien que je te le dis. Si un jour tu veux un homme qui t'honore, honore-toi d'abord toi-même. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de t'honorer si tu n'honores pas ta propre personne. Alors simplement, sois cool. Tu peux être cool. Tu peux être classe, tu peux être moderne, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être dans le vent ou hors du vent comme moi. Mais l'essentiel, c'est que tu te sois décent. Je termine et ce sera mon deuxième grand point de cette partie. L'attitude des parents face aux enfants. Je vais aller... plus vite. Priez pour eux. Ça, c'est une chose que vous devez faire, prier pour eux. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Chronique 29, 19. « Et accorde à mon fils Salomon un cœur entièrement disposé à observer tes commandements, tes enseignements et tes lois, à les mettre tous en pratique et à construire le sanctuaire pour lequel j'ai fait tous ces préparatifs. » David priait pour Salomon. Moi, j'ai dans ma cuisine, j'ai une photo de mes 6 enfants. C'est eux qui nous l'avaient fait un jour, ils nous ont fait un cadeau, une photo, ils sont dessus. Et puis il m'arrive parfois le matin, je suis seul. Et je suis seul en face de la photo. Et alors je prie pour chacun de mes gamins. Je mets même ma main. C'est pas superstitieux, mais comme ça je le tiens bien. Je mets la main sur la tête de Sarah, je dis, tu vois celle-là, Seigneur. Que l'autre... Bon. Non, je l'aime beaucoup l'autre. Tu vois, Seigneur, bénis-la. Qu'elle rentre dans le ministère que tu as prévu pour elle. Après, j'arrive à Jonathan. Seigneur, tu le vois. Seigneur, touche-le. Fais-lui du bien. Et vous savez, c'est chouette quand vous priez qu'ils sont sur la photo parce qu'ils ne peuvent pas réagir. Puis je continue. Seigneur, tu vois Joanna. Seigneur, je la bénis. Tu vois Josué. Et je les prends les uns après les autres. Et quand j'ai fini tous les 6... Ma femme, elle est accrochée sur l'autre mur. Alors je dis, bon, elle aussi, Seigneur, fais-lui grâce. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Une autre chose. Acceptez que vos enfants ne soient pas parfaits. Faites attention. Ne confondez pas l'éducation de vos enfants avec le fait de vouloir vous en faire votre vitrine. Beaucoup de gens m'ont dit, moi je cherche le bonheur de mon fils et de ma fille. Mon œil, ce qu'ils cherchaient, c'était leur propre gloire au travers de la réussite de leurs enfants. Faites attention. Si vous utilisez les enfants pour vous-même, vous les perdrez. Si vous vous investissez pour eux et vous les éduquez simplement par amour afin qu'eux soient armés pour la vie, vous les retrouverez. Mais n'en faites pas votre vitrine. Vos enfants ne sont pas parfaits. Papa ? Je suis pas parfait. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu l'es pas non plus. Donc l'imparfait engendre l'imparfait. Prenez du temps pour les écouter. Devenez son confident. Prenez du temps. Moi, j'ai dû apprendre ça. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai dû l'apprendre. J'ai fait des grosses, grosses bêtises. Les jeunes gens, là, les jeunes mariés, prenez du temps pour écouter vos gamins. Il y a un temps pour tout, mais prenez du temps. Et puis, devenez son confident, mais ne divulguez pas ses secrets. Ne divulguez surtout pas ses secrets. Ma fille m'a confié des choses que je ne dirai jamais. Sa mère même ne les sait pas. Un jour, on m'enterrera avec cela. Maintenant, je sais déjà à quoi je suis condamné dans la voiture.
Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je suis la chair de ta chair, hein?
Oh là là, alors là, il va me réciter toute la Genèse. Je sais. Mais je résisterai vaillamment. Bien, alléluia, dit le frère. Prenez du temps, soyez son oreille. Vous savez, si vous prenez du temps pour l'écouter, il n'ira pas se confier ailleurs. Et si vous prenez du temps pour l'écouter, c'est vous qui lui donnerez les conseils et pas n'importe qui. Ensuite, faites-lui confiance de grâce, frères, sœurs. Faites confiance à vos gamins. Faites-leur confiance, leur faire confiance signifie également que vous les respectez, que vous croyez en eux. Dieu nous fait confiance, alors faisons-leur confiance. Beaucoup d'erreurs sont faites. Certains parents veulent rendre leurs enfants spirituels avant l'heure. N'essayez pas d'en fabriquer des chrétiens, vous n'y arriverez pas, laissez tomber. Soyez un exemple. Mais n'essayez pas d'en fabriquer des petits chrétiens. Priez pour eux, éduquez-les, montre-leur la voie à suivre, mais laissez l'Esprit de Dieu agir. Et de grâce, faites-leur confiance. J'ai parfois mes gamins qui viennent, me disent, papa, ce soir, je vais voir un film au cinéma. Ok. Dans mon fort intérieur, Je dis, Seigneur, il connaît ta parole. Je l'ai enseigné. Je l'ai éduqué. Il a sa conscience. Ton Esprit Saint. C'est à lui maintenant de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Évidemment, cela correspond à un âge. Quand Benjamin a 12 ans ou Michael a 10 ans vient, c'est nous qui allons fixer, bien sûr, très précisément la lignée. Quand ils veulent aller sur Internet, la même chose. On ne va pas n'importe où, ni n'importe comment. Mais bien aimé, faites confiance. La grande force du papa Jean a été non seulement que j'ai grandi avec quelqu'un qui m'a fait confiance. Je vais vous dire un jour, à un certain âge, j'ai découvert la cigarette. Alors au début, c'était laborieux, on aurait dit un crapaud. Et bien sûr, c'était le grand secret entre moi et Daniel. Donc on fumait en cachette, et puis un jour Daniel rentre à la maison et il perd la boîte d'allumettes. Et c'est là, regardez comme c'est beau. D'un côté on fumait en cachette et de l'autre côté, quand papa il dit, Daniel, c'est quoi ces allumettes? On fumait en cachette et on n'avait pas le droit de mentir, alors il dit, c'est pour fumer. Il est où ton frère? Il est en train de fumer. Cherche-le. Alors évidemment, j'arrive à la maison, je bénissais mon frère. Bénis-le. J'arrive devant mon père, et ça me restera toute ma vie. Il me dit, Samy, qu'est-ce que tu fais? Je dis, papa, je fume. Il me dit, Samy, est-ce que tu me promets que tu ne le feras plus jamais? Oui, je te le promets. À partir de là, il ne m'a pas donné de fessée. Il ne m'a pas privé de ceci, de cela. Il n'a pas surveillé où j'allais. Il m'a fait confiance. Mais je peux vous promettre qu'à cause de sa confiance, ma promesse a pris une telle ampleur que j'aurais jamais pu, en tant que gamin, reprendre une cigarette. Faites confiance. Je termine. Apprenez à lui pardonner. Vous y serez amené assez souvent. Sachez les encourager. Jésus a encouragé ses disciples. Frères et sœurs, souvent on sait leur dire ce qui ne va pas à nos gamins. Est-ce qu'on sait leur dire quand ça va bien? Ah, je suis fier de toi. Ah, c'est super. Ouah, tes résultats, super. Ton boulot là, super. Super. Écoute, ça fait rien. Oui, je sais, ça fait rien. Ça, oui. Mais ça fait rien. Super. Tu as essayé de nettoyer la voiture. Oui, c'était pas au scotch brite qu'il aurait fallu le faire. Mais la prochaine fois, prends l'autre côté de l'éponge, hein. Mais encouragez-les. Encouragez vos filles quand vous rentrez. Dis-lui, ma chérie, ce que t'es belle. Même sur leur physique, encouragez-les. Moi, je serre parfois les miennes et je dis, qu'est-ce que t'es belle. Et puis les gaillards aussi. J'en ai un. Je lui dis, oh, purée, hein. Chouette, hein. Je lui dis pas trop parce que sinon ça gonfle. Encouragez-les. Je suis fier de toi. Ça, c'est super. Je suis content de t'avoir comme fils. Ça change leur vie. Vous les boostez. Et ne le faites pas comme une technique, faites-le parce que c'est dans votre cœur. Ne faites pas de différence entre vos enfants, bien sûr. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. Soyez un exemple pour vos enfants. Le juste mène une vie intègre, heureux les enfants qu'il laisse après lui. Notre comportement influencera leur éducation. Je termine par ce dernier verset. Et toi ? Parce que Bernard me regarde très sévèrement. Si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme j'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Et toi, si tu marches en présence comme a marché David, est-ce que vous avez envie d'être le meilleur exemple pour vos enfants? Fermons nos yeux un instant, levons-nous à notre place. La tête et non la queue pour vos fils et vos filles. C'est vrai que vous ne changerez pas le passé. Mais ne laissez pas le passé empoisonner le présent. En haut et non en bas si tu observes ces commandements. Si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tes fils et tes filles jouiront de la bénédiction de l'Éternel. Elles seront pour toi un jour un grand sujet de joie. Tu seras fier d'en avoir rempli ton carquois. Dieu veut faire de nos fils, de nos filles. Je vous rappelle cela par rapport à la première partie du message des aigles. N'en faisons-nous pas des dindons. Dieu veut en faire des hommes et des femmes solides qui un jour pourront lever les yeux vers l'Éternel et savoir que de lui leur vient le secours. Une génération d'hommes forts et de femmes fortes dans l'Église de Jésus-Christ. Une génération qui donnera l'exemple. Une armée pour le Seigneur. Père, je te bénis pour ta présence maintenant. Je te loue de ce que c'est toi qui connais chacun de nos enfants. Je te loue également de ce que tu nous connais en tant que famille, en tant que couple. Seigneur, tu connais tous mes ratés à moi. Tu connais toutes les fois où j'ai échoué dans ce que j'ai fait. Merci parce que tu m'as aidé à me relever. Seigneur, Abraham, Jacob, David, même le père du fils prodigue, se sont rendus compte que ce n'est pas toujours facile. Et Seigneur, il y a peut-être là des hommes, des femmes qui pleurent ce matin, en se disant « j'ai raté certaines étapes ». Je te promets, Seigneur Jésus, que je veux maintenant, aussi bien que possible, redresser la barre. Peut-être sont là des grands-pères et des grands-mères qui se disent « mais avec mon fils, ma fille, j'ai raté certaines choses. Mais je décide de changer à l'égard de mes petits-fils et de mes petites-filles. Je veux apporter cette part en tant que grand-père. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous substituer à vos enfants qui sont leurs parents, mais je veux leur apporter cette part précieuse de la parole. Seigneur, pour ceux qui ont un fils, une fille, qui peut-être passe par un temps de révolte, donne-leur de continuer à l'aimer. Donne-leur peut-être s'ils ont réalisé ce matin certaines fautes, s'ils ont réalisé qu'ils ont été surtout des moralisateurs pour leurs enfants, s'ils ont réalisé que finalement toute l'éducation qu'ils ont proposée à leurs enfants c'était des « t'as pas le droit, t'as pas le droit et tu dois faire ceci et tu dois faire cela et t'as pas le droit » sans jamais d'encouragement, sans jamais d'amour, sans jamais de compassion, sans jamais être eux-mêmes un exemple, s'il y en avait ce matin, Seigneur, qu'ils puissent s'humilier devant toi, qu'ils puissent demander pardon à leurs fils et à leurs filles, peut-être pour la dureté qu'ils leur ont appliquée, et qu'ils puissent encore maintenant, eh bien, changer. Et pour tous les jeunes qui sont là, Seigneur, qu'ils soient encouragés par ta parole, qu'ils apprennent à obéir, à honorer père et mère au travers de l'obéissance, tant que ce qui est demandé est conforme à ta parole. Et Père, qu'ils forment une génération d'hommes et de femmes fortes. Tous les jeunes qui sont là, je vous bénis maintenant dans le nom de Jésus. Des plus petits aux plus grands, je vous bénis. Que vous soyez toujours en haut et non pas en bas. En haut, dans l'humilité. Que vous soyez à la tête et non pas à la queue. À la tête de ce que vous devez entreprendre. À la tête des décisions que vous allez prendre pour votre propre vie. Que vous ne deveniez pas l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Que vous ne soyez que dépendant de l'Éternel. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis dans votre travail à l'école. Soyez bénis dans votre travail au lycée, à l'université, en faculté. Soyez bénis dans vos études. Soyez bénis dans le choix de votre profession. Soyez bénis dans le choix de l'épouse que vous prendrez. Soyez bénis dans le choix du mari que vous prendrez. Soyez bénis dans le choix de l'endroit où vous allez vous installer. Soyez bénis dans le choix du travail que vous allez engager. Soyez bénis dans votre engagement, dans l'œuvre de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.